Il est l'heure de la revue de presse française, comme chaque matin, et à la une. Ce matin, il y a la mobilisation des agriculteurs.
Il y a un changement historique dans la grande distribution, ma chère Julie, ça va vous intéresser.
Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro. Mais là, pas de lapin, non, c'est de poulet dont il est question.
Today's story, Neil, is about a food that a lot of people around the world eat for breakfast.
It's Business.
La revue de presse du business de la bouffe.
Avec Olivier Frey.
Et Daniel Coutinho.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Eats Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec l'Alsacien passionné de bouffe, Olivier Frey. Bonjour Olivier.
Salut Daniel, bonjour à tous.
Alors Olivier, aujourd'hui un hommage au salon de l'agriculture qui a été annulé malheureusement à cause de la crise sanitaire. On aura un épisode avec pas mal d'articles sur le sujet. On va parler de l'école d'agriculture de Xavier Niel, des prix agricoles qui s'envolent, des circuits courts, des lactalises ainsi que de la réouverture des restos en Italie. Commençons tout de suite avec les premiers articles de la semaine. C'est sur Capital. Xavier Niel va lancer une école d'agriculture gratuite. Olivier, la holding de Xavier, est un des principaux actionnaires d'Hectare, un établissement qui formera 2000 agriculteurs par an dans les Yvelines, à 50 minutes de Paris.
Oui, l'idée, c'est effectivement de former 2000 étudiants par an. C'est un château qui a été racheté, un domaine, hein, pour être précis, qui a été racheté.
18 millions d'euros quand même.
Oui, c'est pas une petite somme. Bon, après, ça fait plus de 600 hectares, donc c'est assez intéressant.
C'est clair.
Et l'ensemble, a priori, va comprendre des salles de classe, une cantine de 200 places, des cultures qui seront certifiées bio, mais également 27 vaches normandes.
Chouette.
Qui seront logés dans une ancienne ferme à l'abandon, une laiterie à l'abandon qui s'appelle la ferme des Godets.
D'accord.
Et ces vaches, elles vont produire du lait et du fromage. Donc c'est un projet assez intéressant. On a appris que Xavier Niel était au Capital parce que le magazine Capital a creusé un peu les papiers de l'entreprise en question. Dont les parts sont détenues par Audrey Bourouleau.
Qui sera à la tête du projet.
Qui sera la présidente ou la DG, je ne sais pas exactement son titre exact. Et le reste des parts, 49% des parts, je crois, appartiennent à la holding de Xavier Niel.
Tout à fait. Et Audrey, donc, elle aura 51%. Et notamment, elle a été conseillère d'agriculture d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet.
Oui, elle était aussi dans la viticulture avant d'être conseillère d'Emmanuel Macron.
Et c'est intéressant, je pense que c'est qui a surpris un peu les médias et les agriculteurs et les différentes personnes qui ont réagi sur ces sujets, c'est en fait l'implication de Xavier Niel, parce que lui, il est connu pour investir dans la tech, et là, on les retrouve impliqués dans un projet d'agriculture. Mais finalement, en fait, on voit que c'est pas étonnant vu ses engagements récents parce qu'il a été soutien d'un référendum pour la cause animale et il a lancé avec Mathieu Pigas, on a évoqué ici, et Zoari, un fonds destiné à racheter une grande entreprise de l'alimentaire bio.
Oui, le fonds M2X organique dont on a déjà parlé plusieurs fois.
Tout à fait.
Xavier Niel a aussi investi dans plusieurs startups food tech.
Via Kima Ventures.
Ouais. Donc, que Xavier Niel s'intéresse à la bouffe, finalement, c'est un secteur comme un autre. Hein.
Oui, bien sûr, ça reste un énorme investisseur.
L'idée de proposer une école gratuite, sur le modèle un peu de ce qu'il a fait avec 42, à voir. Hein. Enfin, moi, je trouve, laissons-lui un peu le bénéfice
c'est sûr.
De son affaire.
Moi, je trouve une super initiative. Franchement, on a besoin d'une nouvelle génération d'agriculteurs. Avoir une école gratuite proche à Paris, ça peut même inciter des Parisiens urbains à s'intéresser à la terre. Et ça, c'est ce qu'on voit, par exemple, avec notre émission sur les champs avec Ambre et Camille, deux filles qui sont en dernière année d'HEC, qui font les tours des fermes en France et qui souhaitent peut-être un jour s'installer pour avoir leur propre propriété. Donc ce sera
effectivement ouvert à tout le monde et notamment à ceux qui veulent se réorienter.
Beaucoup de réconversions.
Bah, il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite. Hein. Ça, il ne faut pas se leurrer. Donc, il faudra bien des gens pour reprendre les fermes.
Ce qui est intéressant dans l'article, c'est que Xavier Niel, il donne quelques explications sur son retour à la terre. Il dit « J'ai eu des grands-parents agriculteurs éleveurs, mais ça ne se transmet pas dans l'ADN. Par contre, j'ai aussi deux enfants des 18 et 20 ans qui me montrent à quel point la société change. L'un des deux a arrêté de manger de la viande à 16 ans et ça m'a interpellé. »
Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le monde agricole est un peu circonspect sur cette école-là.
Bah justement, on va enchaîner avec ça. Donc, pas tout le monde est d'accord avec moi pour féliciter Xavier. On apprend en fait dans un article sur BFM, les agriculteurs regardent avec méfiance les projets d'école agricole de Xavier Niel. Alors Olivier, certains agriculteurs craignent que Xavier, vu comme un défenseur de la cause animale, y promeuve la viande des synthèses au détriment de l'élevage.
Oui, et ce qu'ils mettent en avant, notamment en dehors du fait que Xavier Niel a défendu le RIP, je ne sais plus exactement quel est le nom exact, mais c'est aussi le fait qu'il ait investi dans une start-up qui s'appelle Les Nouveaux Fermiers, qui propose des alternatives à la viande à base de protéines végétales, en fait.
Tout à fait, mais bon, il a investi aussi dans une centaine de sociétés, comme tu disais tout à l'heure, donc ce n'est pas parce qu'il a un investissement autour de la viande synthétique que c'est un défenseur de la viande synthétique, et ça ne veut pas non plus dire qu'il va pousser la viande synthétique au sein de son école.
Oui, je pense que ça veut pas forcément dire que l'école ne formera que des gens qui feront des protéines végétales, des légumineuses, des céréales, etc. Mm-hmm. On a vu en plus qu'il y avait une ferme avec 27 vaches, donc il y aura quand même du lait et du fromage. Moi, je dis, laissons les choses se faire et on jugera dans 4-5 ans ce qu'a fait cette école. Et de toute façon, ça ne va pas non plus remplacer tous les agriculteurs. Hein.
Oui, et c'est intéressant, tu as évoqué tout à l'heure, en fait, c'est la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, Christiane Lambert, qui dit, en fait, aujourd'hui, nous avons 450 000 agriculteurs en France et il y a 140 000 qui vont quitter dans les 6 ans, qui vont partir à la retraite dans les 6 ans à venir. Donc, il faut remplacer ces agriculteurs. Et quand on regarde un peu la capacité des formations de cette école, en fait, 2000 agriculteurs formés par an, sur 6 ans, ça veut dire 12 000, donc ça couvre même pas 10% du besoin de la France.
Oui, voilà, il faut raison garder. Moi, je dis, attendons, laissons les choses se faire, on verra bien si, effectivement, les doutes des éleveurs et de la FNSEA sont avérés ou pas. Mais je pense qu'en soi, c'est une bonne nouvelle qu'on ait un de nos milliardaires français qui investisse dans l'agriculture, qui est quand même un des secteurs clés de la France. Hein.
Je partage ton avis. C'est une excellente nouvelle et que d'autres suivent cette initiative d'Xavier Niel. On continue avec l'agriculture avec un focus là sur les prix. C'est sur Les Échos. Pourquoi les prix des produits agricoles s'envolent? Alors Olivier, on l'avait déjà évoqué, mais on apprend davantage dans cet article. Les prix des matières premières sont à leur niveau plus haut depuis 2013.
Oui, et sur le marché à terme de Chicago, qui est un peu la boussole pour l'agriculture au niveau mondial, hein, le maïs, il a touché en février un plus haut historique depuis 2013. Mmh. Le soja, il est à un plus haut historique depuis 2014. Et à Paris, la tonne de blé, c'est pareil, elle est à un plus haut depuis 2012 environ.
12 même, ouais.
Donc tout ça, c'est lié à différentes raisons.
Pourquoi, Olivier, cette inflation?
Alors, il y a une inflation à cause de l'offre, d'une part. Alors ça, c'est commun, je dirais. Hein. S'il y a une sécheresse en Australie, les céréales vont monter.
C'est lié à des cycles climatiques.
Voilà, il y a El Niño ou La Niña.
Là, c'est La Niña.
La Niña, maintenant. C'est d'ailleurs chez toi, hein, des craintes de sécheresse au Brésil, en Argentine.
Tout à fait.
Il y a un refroidissement des eaux dans le Pacifique qui change aussi le climat sur toute la planète. Mmh. Il y a aussi, et là c'est nouveau, c'est lié à la crise Covid. Hein.
Ça j'adorais, la pénurie des containers.
La pénurie de containers qui
comment ça
affecte énormément de secteurs, et notamment l'agriculture, parce que le sucre et le riz, ça se transporte en containers.
Bien sûr, mais selon l'article, la principale raison vient du côté de la demande en fait.
Voilà, la demande, il faut bien avoir en tête que la Chine aujourd'hui, c'est vraiment la Chine qui fait les prix sur les marchés mondiaux, parce qu'elle est importatrice énormément de produits agricoles. Alors, on parle là de millions de tonnes de soja, c'est 100 millions de tonnes de soja.
5 millions.
et 20 millions de tonnes de maïs, alors que la campagne précédente, c'était seulement 7,6 millions de maïs que la Chine a importé. Mais il y a une raison à ça. Mmh. Le maïs, ça sert à nourrir le bétail. Mmh. Et la Chine a fait face à un épisode de peste porcine africaine. D'accord. Qui a complètement décimé tout son cheptel porcin.
D'accord.
Une énorme partie de son cheptel porcin. Donc là, ils sont en train de renouveler ce cheptel. Donc forcément, il faut importer beaucoup plus. D'accord. Pour nourrir.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les experts, ils disent en fait, il y a par exemple Dambas, qui est le président d'Ag Resources, qui dit nous sommes dans un marché haussier qui va durer plusieurs années en fait. C'est pas un phénomène des courts termes en fait, c'est un phénomène qui s'installe un peu sur la durée.
Alors c'est un phénomène qui va probablement s'installer sur la durée avec les et qui va avoir des problématiques qu'on a déjà vécues. Mmh. Je pense par exemple aux émeutes de la faim qu'on a déjà eues il y a quelques années. Hein. Si mmh. vous vous souvenez, dans les pays du Maghreb, il y a eu des émeutes de la faim. Donc est-ce que ces émeutes de la faim vont revenir ? De l'autre, on peut se dire finalement, ça va mieux rémunérer les agriculteurs. Donc il va falloir trouver le juste milieu sur ces prix-là. Hein.
Bien sûr, bah, il y a même les principaux négociants des matières agricoles au monde, c'est l'Américain Cargill qui partage cet avis. Son DG, il dit la Chine va encore acheter à l'étranger massivement pendant plusieurs trimestres. Donc la tension va rester là et ça finira malheureusement par avoir un impact positif sur les prix de l'alimentation en France. En fait, positive, une augmentation du prix de l'alimentation en France et partout dans le monde.
Oui, et l'an dernier, la Chine a acheté beaucoup de céréales françaises, par exemple. Alors, mmh. c'était moins le cas les années précédentes. Donc, c'est vraiment un acteur. C'est des chiffres démentiels. Hein, quand on regarde déjà rien qu'au niveau de la population, il y a 1 milliard 200 millions de Chinois à nourrir. Donc, c'est vraiment un acteur qui fait un peu le jour et la nuit sur les cours agricoles.
Bon. On va suivre ça de très près parce que c'est un sujet que je pense pas qu'il va disparaître des médias, des actualités sur les années à venir, au moins sur les trimestres à venir. Bon, on continue avec un dernier article sur l'agriculture qui s'intéresse à la rémunération des agriculteurs. C'était sur France Télévisions. Circuit court, label, marque, comment s'assurer que nos achats rémunèrent correctement les agriculteurs? Olivier, dans cet article, on apprend qu'en France, la pauvreté est plus répandue chez les ménages agricoles que dans l'ensemble de la population active. Comment changer cette situation ?
Alors, comment changer ? On a essayé de la changer, hein, parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi Egalim qui a été promulguée en 2018.
Tout à fait.
Dont le but, c'était de payer le juste prix aux producteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur travail. Mmh. Bon, à la base, la loi, elle reposait sur une idée intéressante. Par contre, les résultats de cette loi Egalim se font attendre hein, aujourd'hui. Et du coup, France Télévisions s'est interrogée sur comment nous, en tant que consommateurs, on peut s'assurer que nos achats rémunèrent au mieux les agriculteurs.
Tout à fait.
Donc pour ça, ils ont été voir Denis Beauchamp, que je connais un petit peu. Hein. Salut Denis, c'est le président de l'association France Agrituitos, mmh. dont je suis adhérent.
Très suivi sur Twitter.
C'est une association de gens qui s'intéressent au monde agricole, donc pas que des agriculteurs, ça peut être des para-agricoles. Toi, tu peux aussi adhérer si tu veux. Mmh. Et dont l'idée est de parler positivement de l'agriculture. Donc pour Denis, lui, ce qu'il dit, c'est que pour mieux rémunérer, il faut passer par les circuits courts. Alors qui dit circuit court, c'est pas forcément aller tout près de chez soi. Un circuit court, c'est un circuit
où on réduit
les intermédiaires.
Tout à fait.
Donc c'est du direct producteur. Donc ça peut être très bien, vous commandez sur Internet, chez un producteur.
On peut passer par une AMAP, on peut passer par des plateformes comme Pour des Bons ou Pélis Gourmet. Tout ce qui va diminuer le nombre d'intermédiaires entre nous et les producteurs. Quoi.
Voilà, parce que plus il y a d'intermédiaires, et à chaque étape, l'intermédiaire va prendre sa marge. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Ce qui est intéressant, ce qu'il dit dans l'article, c'est que les circuits courts représentaient en 2016 plus de 106 000 exploitations et 8% du marché des produits alimentaires. Moi, je m'attendais même à un chiffre moins important.
Ouais, après, il y a beaucoup d'agriculteurs qui font aussi de la vente à la ferme. Donc, ça rentre là-dedans. Il y a ceux qui vont sur les marchés. Il y a les circuits courts. Il y a énormément de choses.
Même la semaine dernière, on évoquait les modèles d'Aurore, distribution bio, qui est un peu en circuit court parce qu'ils sont en direct avec les producteurs. Voilà. C'est un intermédiaire entre les consommateurs et les producteurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il, en fait, en privilégiant les circuits courts, ça fait également baisser sa propre facture, en fait, parce que plus les circuits longs, ce que tu disais, plus les prix est cher. Et donc, en fait, nous, on peut dépenser moins en alimentation en achetant peut-être auprès des producteurs.
On peut dépenser moins. Le problème, c'est que parfois, pour les agriculteurs, enfin, la distribution, c'est un métier. Donc, parfois, pour les agriculteurs, le problème des circuits courts, c'est que ça leur prend beaucoup de temps. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, donc il faut s'organiser.
Bien sûr.
Il faut conditionner
les produits.
C'est
un autre métier, la vente.
Il faut les livrer. Donc pour eux, c'est aussi parfois du temps. Et on peut penser que quand on achète en circuit court, on va payer moins cher. Mais comme ça prend plus de temps à l'agriculteur, les prix sont parfois un petit peu plus chers que votre supermarché.
Oui, et surtout, on voit par exemple s'il décide de transformer lui-même certains produits dans sa propriété, peut-être vu les volumes qui sont plus faibles, il aura des prix qui seront plus élevés par rapport à l'industrie agroalimentaire. Après, on ne mange pas la même qualité. Et
non,
ce
et
sont
puis
des
vous savez d'où ça vient,
et
vous connaissez
vient, voilà.
L'agriculteur, il peut vous parler de ses pratiques agricoles, etc. Donc
et surtout, on sait avec à qui on partage la valeur, en fait. C'est qui garde la valeur, c'est l'agriculteur. En fait, il y a intéressant aussi ce qu'ils évoquent dans cet article, c'est la notion d'acheter des marques, même en grande surface, en fait, des marques qui défendent une juste rémunération des agriculteurs, comme c'est qui les patrons, par exemple.
Voilà, c'est qui le patron, c'est une marque qui est transparente aussi. Vous achetez un beurre, vous savez combien, enfin c'est marqué sur le beurre combien est reversé à l'agriculteur.
C'est clair, et ils arrivent même à poster sur leur page Instagram par exemple des factures en pièces jointes pour montrer combien ils ont payé aux producteurs, quoi.
Oui, et ça fait, je pense que les industriels, s'il y avait plus de transparence à ce niveau-là, si on savait, bah voilà, j'achète mon yaourt Danone, voilà combien est reversé à l'agriculteur. Je pense que ça jouerait aussi pas mal. Maintenant, il y a un manque de transparence chez beaucoup d'industriels sur combien ils rémunèrent leurs éleveurs ou les agriculteurs qui les fournissent.
Et c'est justement ce qu'ils évoquent dans l'article, c'est qu'aujourd'hui, il manque peut-être des communications, d'informations auprès des consommateurs pour qu'on sache quels sont les acteurs qui rémunèrent correctement les producteurs. Il y a beaucoup aussi de bashing autour de ça, parce qu'il y a des gens qui s'approprient de la notion de bien rémunérer les producteurs pour faire du marketing. Je pense qu'aujourd'hui, pour nous en tant que consommateurs, c'est difficile de vraiment savoir si derrière un produit, ouais, il y a une rémunération qui est correct ou pas.
Bah après, c'est aux agriculteurs peut-être de prendre la parole pour dire oui, effectivement, je suis rémunéré, ce qui est annoncé.
Tout à fait. Et Denis, donc, de France Agri-Tweeters, merci beaucoup parce que j'ai toujours du mal avec les noms de son association. Il dit qu'en attendant d'avoir peut-être plus de visibilité sur la façon de rémunérer les producteurs, si on veut vraiment agir sur la rémunération sur les courts termes, il faut déjà acheter français.
Oui.
Parce qu'au moins, déjà, on sait qu'on va garantir une rémunération correcte pour les agriculteurs français et on va éviter des produits qui sont faits de façon un peu industrielle et qui viennent de loin, quoi.
Et par exemple, dans le bio, hein, on
dans
voit beaucoup
bio,
de produits
bah ouais,
bio qui arrivent de pays de l'Est.
Ou de l'Espagne.
Est-ce que vaut mieux acheter un produit français qui n'est pas forcément bio ou qui est en transition bio, ou un produit bio qui vient de Bulgarie ou d'Espagne?
Oui,
c'est là la question.
On était hier ici dans les studios avec Hélène Darroze, elle disait, mais même moi, en tant que chef, jusqu'à très peu, j'achetais mon caviar en Chine parce que je trouvais que c'était d'une meilleure qualité. Et aujourd'hui,
caviar dans le sud-ouest.
Bien sûr, ouais. Elle a dit, bah, je vais acheter mon caviar en France parce que ça n'a plus de sens d'acheter un produit qui vient de si loin. Donc je pense que si on commence par acheter français, c'est déjà une bonne façon de commencer à améliorer la rémunération pour les producteurs.
C'est sûr.
Écoute, on va, en parlant d'acheter français, on va parler d'un géant français, mais les géants du lait, c'est sur Les Échos, Lactalis, dans les coulisses de l'Empire du lait. Alors Olivier, dans cet article, on en apprend davantage sur les coulisses du géant du lait qui pèse 20 milliards des chiffres d'affaires.
Oui, il pèse 20 milliards, mais c'est un groupe qui est très très secret, c'est un groupe familial. Donc c'est un groupe qui s'est bâti à coups de fusion, acquisition, reprise. Et c'est Daniel Jaouen qui est l'ancien DG du groupe, qui a été DG du groupe pendant 32 ans. Hein, donc c'est quand même une
belle
longévité.
Une belle vie, quoi.
qui sort un livre qui raconte la, l'historique de Lactalis, comment l'entreprise s'est construite. À la base, ça s'appelait Beignet, du nom de la famille qui détient Lactalis.
Tout à fait.
Et lui, en 32 ans, on peut imaginer... Alors, je n'ai pas lu le livre, hein, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à lire.
Il y a plein des trucs intéressants dans cet article. Déjà, on apprend que c'est une croissance. Bon, c'est connu, mais là, on a des chiffres concrets. Une croissance qui s'est pas mal appuyée sur la croissance externe. 114 opérations d'acquisition en moins de 20 ans. C'est énorme. Ça fait 6 à 7 acquisitions par an.
C'est énorme.
C'est un record.
Oui, oui, on voit souvent des articles.
Même pas Bernard Arnault.
Lactalis a repris ceci, cela. On se demande toujours.
C'est clair.
Et surtout, c'est comment ils financent tout ça. Est-ce qu'ils font de la dette? Est-ce qu'ils font des prêts? Est-ce que c'est sur leurs fonds propres? C'est vrai que des fois, il y a eu des grosses opérations qui ont été réalisées.
Des énormes opérations. Bah, déjà, ils commencent en 68 avec l'acquisition de deux marques de produits phares du groupe aujourd'hui, la brique de lait UHT et les camemberts présidents.
Camembert président, oui.
C'était au début des années 80, je pense.
C'est le lancement des deux marques. Mm-hmm. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, Lactalis, ce qui était originellement Lactalis, c'était 251 millions d'euros de chiffre d'affaires en 1955.
En 55.
Avec 50 salariés uniquement. Hein. Aujourd'hui,
c'est
plus de 20 milliards.
Ouais. Oui, ce qu'il dit, c'est que la collecte des laits du groupe est passée des 7 millions à 7 milliards des litres en 50 ans. En fait.
Oui, c'est énorme.
Ils ont fait fois 1000, quoi.
Et Lactalis, aujourd'hui, est partout, pas qu'en France. Hein.
Bien sûr, ils ont racheté Galboni en 2005 pour 2 milliards d'euros. Parmalat aussi, en 2011.
Parmalat,
deux énormes acteurs de la Giulia
Italia. Lactalis a énormément investi en Italie. Ils ont aussi repris un truc de parmesan, un dealer de parmesan.
Parmesan.
Oui, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, ça a fait beaucoup couler d'encre en Italie parce que les Italiens, c'est un peu leur fromage emblématique.
T'imagines, c'est les Français qui détiennent les parmesans.
Ouais,
ils sont pas très contents, les Italiens.
Donc là c'est aussi une acquisition stratégique.
Bien sûr.
Et l'an dernier, ils ont encore repris quelque chose. Hein. En année Covid, on se disait que...
Un petit truc.
Ils ont repris l'activité fromage de l'américain Kraft. Alors,
ouais. Hors Philadelphia.
Hors Philadelphia,
ouais,
qui
Philadelphia
est quand même
va
la grosse marque.
Ils proposent du président Galboni à Philadelphia. Quand même, ils couvrent un peu toute la gamme des fromages industriels qu'on peut trouver dans le monde, quoi.
Oui, oui, ils ont énormément de fromages. Hein. Derrière, pas mal de fromages que vous consommez en grande surface, c'est Lactalis.
Bien sûr. Ils disent dans l'article que c'est une grande fierté du patron d'accueillir la presse ou des partenaires et avoir une table à proposer leur fromage. En fait, ils proposent 400 variétés de fromages qui sont sous leur responsabilité.
Oui, dont pas mal d'AOC et d'IGP. Hein. Donc,
aussi. Évidemment, on fait plus référence aux produits de grande distribution, mais aussi, évidemment, là-dedans, il y a une énorme variété de produits. Bon, écoute, c'est un article très intéressant, mais on passe du géant du lait et on change des sujets pour parler d'une forte tendance des consommations, les vracs. C'est sur les échos, encore une fois, de plus en plus des consommateurs craquent pour les vracs alimentaires. Malgré les craintes des contaminations, les marchés du vrac alimentaire s'emballent, Olivier.
Oui, l'an dernier, la croissance du vrac a un peu freiné. Hein. C'était plus 8%, ce qui est déjà bien. Hein. Mais c'était plus 40% entre 2018 et 2019. Donc, il y a eu un peu un frein par rapport à ça parce que les gens avaient un peu peur de la contamination liée au Covid.
Tout à fait.
Et du coup, plus 8%, moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Et l'intérêt des consommateurs, c'est reparti à la hausse depuis le mois de juillet dernier.
Ce qu'ils disent, ouais.
A priori, 7 acheteurs de vrac sur 10 étaient déjà revenus dans les rayons.
C'est une bonne nouvelle.
Ouais. Et du coup, c'est effectivement, il y a quelque chose qui va pousser le vrac. C'est une projet de loi dans le projet de loi climat et résilience, en fait, a priori. Pour réduire les emballages plastiques, tous les commerces de plus de 400 mètres carrés devront consacrer 20% de leur surface de vente au vrac.
C'est énorme.
D'ici à 2030.
C'est énorme. Ça veut dire que dans un hypermarché moyen en France, ça veut dire que ce sont 1000 mètres carrés qui pourraient être consacrés à ces modes de distribution. C'est dingue, en fait.
Voilà. Donc, le vrac va fortement se développer. Si ce projet de loi passe, ils vont être forcés de mettre plus de vrac.
Ce qui est intéressant, c'est que les marchés du vrac pèsent aujourd'hui 1,3 milliard d'euros, alors qu'ils qui pesait à peine 100 millions d'euros en 2013, donc il a fait x13. Et Célia Hennesson de Hezovrak, elle estime que les chiffres vont tripler d'ici 2022. D'ailleurs, Célia, c'est quelqu'un qu'on connaît bien chez Business of Bouffe. Nous avons fait une super émission avec elle il y a plus ou moins un an. Et elle était d'accord de participer à l'émission, donc on va l'appeler tout de suite pour qu'elle puisse nous donner un peu son avis sur, sur les sujets et qu'elle puisse apporter peut-être plus des précisions par rapport à ces modes de consommation qui continuent à se développer en France. Bonjour Célia, c'est Daniel et Olivier des Business of Bouffe, It's Business. Tu vas bien ?
Salut Daniel, ça va bien et toi ? Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Salut, tu es en direct sur It's Business. Célia, on parlait justement de l'explosion du vrac et des, évidemment des consommateurs qui étaient un peu méfiants au début du confinement et qui ont repris en fait ces modes de consommation au fur et à mesure de l'année 2020. Est-ce que tout d'abord, tu peux revenir sur l'impact du Covid sur les marchés du vrac et où on se situe aujourd'hui ?
D'accord, merci. Alors, le consommateur n'a pas été véritablement méfiant.
D'accord.
Pendant le confinement, on a mené une étude avec notre partenaire Nielsen pour justement mesurer l'impact et comprendre ce qui se fait derrière. Et ce que l'on a observé, c'est que pendant le premier confinement, il y avait plus d'un consommateur sur deux qui avait continué à acheter en vrac. Mmh. Donc en début d'année 2020, c'est 40% des Français qui déclaraient acheter en vrac. Et au tout premier confinement, on est tombé à 22%.
D'accord.
Et les raisons principales qui ont expliqué cette chute, c'est les raisons logistiques. En fait, les clients n'avaient pas accès au vrac. Mmh. Soit les rayons étaient fermés, soit les magasins n'étaient plus dans le périmètre dans lequel ils pouvaient se rendre. On avait le fameux 1 km duquel on ne pouvait pas dépasser. Mmh. Et les gens ont réduit aussi le nombre de magasins pendant la crise. Donc, plutôt que de faire plusieurs magasins, ils n'en ont fait qu'un. Mmh. Et si dans le magasin qu'ils fréquentaient, le rayon était fermé ou il n'y avait pas de vrac ou très peu, eh bien forcément, le nombre de citoyens qui consommaient en vrac s'est réduit. En notant aussi que pendant la crise, et c'est toujours le cas aujourd'hui, l'un des canaux de distribution qui a explosé, c'est le drive.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, on ne trouve pas forcément de vrac en drive. Donc, c'est pour ces raisons plutôt logistiques que les consommateurs se sont détournés du vrac pendant la crise. Mais on note dès la fin de l'année 2020, en décembre, qu'on est quasiment revenu au niveau d'avant-crise avec 37% des Français qui ont continué, qui ont repris leur consommation de vrac.
Alors moi, j'ai une autre question, Célia. C'est, est-ce que pour toi, il y a encore des produits pour lesquels ça reste compliqué de faire du vrac ? Parce que dans mon souvenir, je sais que c'était compliqué, par exemple, sur le yaourt. Alors est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des vraies barrières pour certains produits alimentaires ?
Il y a deux barrières qui peuvent se poser pour un produit, soit une barrière d'ordre législatif, et dans ce cas-là, de facto, le produit ne peut pas être vendu, et tout le travail de Réseau Vrac, c'est de faire lever ces freins législatifs. Je prends par exemple les produits surgelés. Aujourd'hui, c'est interdit au niveau de la législation française et européenne, donc ça, on ne va pas pouvoir les trouver en vrac tout de suite. On est en train de travailler avec la Commission européenne sur ce sujet. Ensuite, l'autre barrière, sinon, qui peut exister, c'est la barrière technique pour des produits notamment fragiles comme le yaourt que tu cites. Et il y a eu des tests l'année dernière de yaourt en vrac en libre service. Et d'ici quelques mois, on va pouvoir les avoir.
D'accord.
Donc, on est en train de les lever. Là, il y a eu aussi dans les avancées le ketchup, la mayonnaise. Les produits qui contiennent de l'eau sont des produits plus fragiles. Et c'est cela qui nécessite un équipement de distribution qui garantisse la santé et la sécurité du produit du consommateur. Okay. Mais c'est en train d'évoluer. Après, moi, je pense plutôt, par exemple, des produits comme les chips, surtout si la chips n'est pas épaisse. Effectivement, je pense que ça sera compliqué de l'avoir en vrac.
Ouais. Est-ce que tu penses, du coup, que le fait que les grandes marques se lance dans le vrac, là on a vu ces derniers mois, Kellogg's, Panzani, on avait eu quelques tests, notamment chez Franprix. Est-ce que tu penses que ça va justement accélérer le vrac et faire venir plus les clients sur le vrac ?
Oui, tout à fait. Je pense que ça va accélérer. C'est nécessaire. C'est ce qui va permettre, un, d'avoir plus de consommateurs et, deux, de changer d'échelle. Quand on a interrogé les Français cette année avec Nielsen sur les marques, eh bien, ils sont 54% à vouloir des marques en vrac. Et c'est encore plus vrai chez les acheteurs de vrac. Ils sont 73%. Donc, il y a une réelle attente des Français pour les marques. Ça fait partie des freins qu'on avait identifiés qui fait que certaines personnes ne vont pas dans le vrac parce qu'elles retrouvent pas leur marque favorite. Mmh. Donc c'est vraiment ce qui va permettre pour moi de dépasser le cap des 40% d'acheteurs de vrac et d'avoir peut-être pas si d'un avenir très proche plus de 50% de la population qui consommera en vrac aisément. Mmh. Et ce d'autant plus qu'on a un cadre législatif favorable en France et qui nous soutient.
On a évoqué ça tout à l'heure, Célia, et justement dans l'article des Échos, tu estimes en fait donc la filière, les chiffres d'affaires de la filière vrac devraient tripler d'ici 2022, donc en 2 ans. Est-ce que tu peux nous indiquer peut-être quels sont les principaux axes des croissances pour la filière? On a parlé évidemment de l'intérêt des marques, de la loi. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent accélérer cette croissance?
Oui, c'est tout d'abord le parc de magasins. Mmh. En fait, plus il y aura de points de vente qui auront du vrac, plus le marché va grandir. Et ensuite, au sein de ce parc de magasins, qui est déjà bien fourni en France, mais qui ne cesse de s'accroître, que ce soit chez les spécialistes du vrac, les épiceries, on en est à plus de 670 aujourd'hui, il y en avait à peine une vingtaine il y a 5 ans. Donc ça, on est sur un... Il y a eu 166 ouvertures l'année dernière, alors qu'on était quand même en période de crise. Donc ça va continuer à s'accélérer. Il n'y a plus un seul magasin maintenant de la bio ou de super hypermarché qui sont sans un rayon vrac. Donc voilà, ce parc va continuer à s'accroître. Ensuite, au sein de ce parc de magasins, c'est l'offre produit, comme on l'a vu, parce que nous, on continue de lever des barrières législatives, parce qu'il y a de plus en plus de fournisseurs, de fabricants qui s'y mettent, comme les marques, parce que l'année dernière aussi, dans la loi AGEC, on a posé donc une définition de la vente en vrac et on a dit aussi, par exemple, que les produits, les cahiers des charges des produits sous SICO, sous AOP, IGP, devaient adapter leur cahier des charges pour prévoir la vente en vrac. Mmh. Donc, on va avoir de plus en plus de produits disponibles en vrac, donc cette offre produit qui s'accroît, et aussi, comme on le disait, le cadre législatif qui vient soutenir cette croissance. C'était le cas de la loi AGEC il y a un an. C'est le cas de la loi climat et résilience qui va être promulguée d'ici quelques mois, dans laquelle il y a un article consacré au vrac. Et puis, c'est le fait d'en parler aussi. Plus on en parle, on a aussi écrit un livre, Vrac mode d'emploi, en septembre de l'année dernière, pour mettre aussi dans les mains des utilisateurs un guide pour se mettre au vrac. Voilà. Donc, on essaye vraiment d'agir sur tous les maillons de la chaîne de valeur du vrac, du producteur au consommateur, pour encourager tout ce monde-là à aller vers le vrac. Et c'est ça qui va nous permettre de décupler les ventes en vrac d'ici à peine un an et demi.
C'est top, on les souhaite. Ça fera du bien pour la planète et pour nous tous. Célia, merci beaucoup pour ton intervention. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. On te laisse continuer ta vie et à très bientôt sur Business of Bouffe.
Merci à tous les deux. Bonne
journée. Au revoir.
À bientôt.
Merci Célia, donc c'est énorme en fait. Après il faut mettre les choses aussi en perspective, hein. Même avec tous ces développements très excitants autour du vrac, ça représente que 1% de l'alimentaire aujourd'hui, donc les potentiels ils restent énormes en fait.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de potentiel et moi je suis persuadé que le fait que les grandes marques s'y intéressent, ça va pousser encore plus. Peut-être que demain, on aura des produits qu'on ne soupçonnait pas. Enfin, tu vois,
oui, les yaourts, c'est un bon exemple. Et l'huile d'olive, qui a toute une réglementation autour, qui est hyper compliquée.
Il y a du vin en vrac aussi, mais ça existe depuis longtemps déjà. Donc, c'est intéressant.
Tout à fait. Et il y a même, c'est qui est intéressant dans l'article, ils évoquent, la majorité des Français, 54%, apprécient de pouvoir acheter un vrac pour pouvoir acheter la quantité juste, en fait, et surtout pour éliminer les emballages. Et 15% considèrent aussi qu'ils peuvent acheter moins cher.
Alors que c'est pas forcément tout le temps le cas.
Pour certains produits, ils évoquent, c'est pas forcément le cas. Moi, mon expérience perso, donc j'ai une épicerie vrac en bas de chez moi, l'épicerie Kilogramme, j'ai salué parce que c'est une super épicerie. Et franchement, sur la partie sec, pâtes, riz, café. Franchement, les prix sont plus bas qu'en grande surface et surtout, j'évite les emballages. Bon, on va continuer sur un sujet qui donne de l'espoir. Ça vient de l'Italie, c'est sur Les Échos. Covid, comment les restaurants ont ouvert en Italie? Mamma mia, Olivier, les restos restent fermés en France, mais on apprend qu'en Italie, ils commencent doucement à reprendre l'activité.
Oui, alors qu'en France, on en est encore à parler de Dark Kitchen. Les Italiens, eux, ça y est, ils sont à l'étape suivante.
C'est la
ils ouvrent les bars et les restaurants dans certaines zones, a priori. Hein,
oui.
Y a le pays a classé ses 20 régions en 3 zones selon la situation du virus. Donc rouge. Risque élevé, orange risque modéré, jaune risque faible.
Mmh.
Et dans les régions de la zone jaune, donc ça concerne 8 régions au total,
oui,
hein, ce qui est déjà bien. Hein.
Pas mal.
Les bars et les restaurants, ils peuvent être ouverts de 5h du matin jusqu'à 18h.
Génial.
Alors bon,
on peut déjeuner au resto,
on ne peut pas y dîner, mais on peut déjà
dîner,
y déjeuner.
Ça va déjà.
Voilà, nous, on parle de cette étape-là aussi. Hein. Il y a une demande chez nous pour ouvrir les restaurants au déjeuner. Il y a plusieurs députés qui ont demandé ça.
Et ce qui est énorme, en fait, c'est il y a une seule région qui est une région classée en zone blanche, c'est la Sardaigne. Bon, ça se comprend, c'est une île. Mais là, les restaurants peuvent rester ouverts jusqu'à 23h.
Ouais.
C'est
un autre monde.
On
hein,
est en 2050 là.
Ah, ouais. Ça nous paraît tellement loin un restaurant. Mais bon, après il y a quand même des règles sanitaires très strictes hein, à respecter. Bon, il y a du gel d'hydro pour tout le monde, une caisse avec un écran en plexi. Bon, c'est du classique. Paiement électronique à table.
C'est qui est pas différent des règles qu'on avait au début de l'automne.
Si on regarde les règles, menu électronique, serveur masqué, désinfection de la table. Distance d'au moins 1 mètre entre chaque table. Enfin, finalement, c'est des règles qu'on avait, nous, il y a quelques mois. Hein.
Bien sûr.
Donc, si l'Italie a réouvert avec les règles qu'on avait, nous, il y a quelques mois, on peut estimer que chez nous, ça pourra être faisable aussi.
Nous sommes 100% d'accord. Bon, Olivier, de la restauration en Italie, on revient en France pour parler boulangerie avec une start-up qui se développe rapidement en Alsace. Les Échos, du pain frais livré avant 6h30, Baguette Box relève les défis. Alors, Olivier, je ne connaissais pas cette start-up et je trouve leur business model génial.
Ouais, mais en Alsace, on a beaucoup de bonnes idées.
Ouais, c'est la mafia alsacienne.
Voilà. Alors, c'est une start-up, effectivement, qui compte déjà 5500 client, ce qui n'est pas rien,
a été
lancé en 2019. Et moi, j'ai eu la chance aussi de tester le service.
Ah, parce tu l'as que, testé carrément ouais,
ma sœur est abonnée à Baguette Box.
Ah, et alors
j'ai eu la chance de tester.
Et comment
effectivement,
ça se passe
en fait, vous commandez la veille en ligne avant 18h.
Mais juste un truc à préciser avant, en fait, c'est que quand tu deviens adhérent ou tu t'abonnes à Baguette Box, ils te fournissent une boîte. En fait.
T'as une boîte, en fait,
et tu installes devant chez toi.
Il y a un abonnement mensuel de 6,90€ par mois.
Mmh.
Ils te fournissent une boîte que tu mets devant ta maison, que
tu accroches bien.
Sur ta boîte aux lettres.
C'est une boîte en plastique, j'ai vu la photo, ça fait une petite. Ouais.
Et en fait, tu passes commande en ligne chez ton boulanger préféré, et le lendemain, tu es livré avant 6h30.
D'accord.
Donc, j'ai fait le test et c'est assez intéressant parce que du coup, si tu prends ton pain à 6h45, il est encore un peu chaud. C'est vraiment super intéressant. Puis c'est une start-up qui se développe pas mal en Alsace.
C'est génial. Et ce qui est intéressant dans leur modèle, en fait, c'est qu'ils ne s'occupent pas de la production, mais ils font plutôt les choix de se concentrer sur la logistique et distribuer des produits des boulangers locaux.
Voilà.
Et donc, c'est génial, en fait, parce que tu peux même choisir quel boulanger chez qui tu veux acheter ton pain, en fait.
Ouais, voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'eux ne produisent pas. Et du coup, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
Bien
pour
sûr.
Les boulangers, ça leur fait des clients en plus. Pour eux, ça leur fait... alors, c'est un boulot de logisticien, en fait.
Bien sûr, ils achètent au prix pro et ils vendent ça avec une marge de consommateurs finaux et ils gèrent la logistique avec des livreurs tous embauchés en CDI, apparemment.
Et surtout, le client, lui, va payer le même prix que s'il allait à sa boulangerie.
Sauf qu'il a sa baguette, son croissant, etc. en bas de chez lui.
Voilà, c'est assez pratique. Hein.
Ce qui est aussi malin, c'est que concernant la gamme, et pour convaincre plus des clients et augmenter évidemment les paniers moyens, Baguette Box a commencé à compléter son offre avec des produits locaux pour les petits déjeuners, comme par exemple des cafés, notre réfacteur alsacien, Sati, mais aussi avec des confitures et des miels, des petits producteurs. Ils sont même engagés dans un partenariat avec Nestlé pour distribuer les produits de la marque destinés au petit déjeuner.
Et ce qui est intéressant aussi chez Baguette Box, c'est que c'est pas forcément que pour des urbains. C'est là où c'est intéressant, c'est que moi, ma sœur, elle habite en campagne alsacienne. et elle peut se faire livrer son pain tous les matins dans sa campagne. Ah, donc, c'est pas que pour les urbains, c'est ça qui est intéressant dans leur concept.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils souhaitent se développer en franchise. Donc, en fait, ils ont déjà deux franchisés. Ils ont un à Colmar et un autre qui est plus au sud de l'Alsace. Et en fait, ils comptent là, à partir de, je pense que d'ici 2022, avoir une trentaine, une centaine de franchisés. Et ils ont déjà fait deux levées de fonds pour un total de 1,4 million d'euros. Et là, ils sont en cours de mettre en place une troisième levée. Donc, certains de nos auditeurs souhaitent investir dans cette pépite de la boulangerie. Il faut juste contacter les fondateurs ou sinon passer par Olivier Frey qui connaît toute la... qui fait partie de la mafia alsacienne. Bah, on va finir en fait cette revue de presse avec un dernier article sur la technologie appliquée à la gastronomie. C'est un phénomène sur TikTok et qui influence les business de la bouffe. Donc, c'est sur le New York Times des TikTok Feta Effect, les phénomènes TikTok Feta ou comment une recette diffusée sur l'application TikTok a fait exploser la demande des feta.
Oui, et c'est ce qui arrive avec certains produits. Hein. Les réseaux sociaux ont eu cet effet. Moi, j'ai fait un article il n'y a pas longtemps sur l'avocat. Mmh. L'avocat a explosé grâce à Instagram.
Instagram.
Et là, cette fois-ci...
Instagram, on le sait, mais TikTok, c'est, au moins en France, c'est nouveau, mais ce n'est pas encore une adhésion aussi importante. Et donc, c'est intéressant de voir qu'aux US, ça a un impact énorme sur les...
Ça a un impact produits. Énorme. Et là la recette en question, c'est baked feta pasta.
Ouais. Donc, l'idée... Je vais voir, parce que ça m'intrigue.
C'est intéressant. Donc, vous avez des tomates cerises, grosso modo, dans un plat. Au milieu, vous mettez un bloc de feta.
Un bloc de feta.
Vous mettez ça au four.
Un peu d'huile d'olive, du piment. Voilà. Et voilà, on assaisonne bien.
Mixé, et puis ça vous fait une sauce.
Ça fait des tomates rôties, avec les feta rôties qui devient un peu crémeux. Ouais. Et on mélange tout ça pour faire une sauce avec des pâtes. Et ça donne envie. Hein.
C'est une recette qui remonte à 2018. Hein. C'est une blogueuse finlandaise qui avait réalisé cette recette.
Tout à fait.
Mais surtout, en fait, si on regarde le hashtag Feta Pasta aujourd'hui sur TikTok, c'est plus de 600 millions de vues. C'est énorme.
600 millions de vues. C'est un truc des malades, quoi. Et aux US, apparemment, je ne sais pas pourquoi, elle a commencé à viraliser début janvier. Ouais. Et en fait, on a commencé à voir des résultats sur les marchés en février.
Voilà.
Justement, la pénurie des feta, en fait.
Une pénurie de feta. donc, chez certains épiciers, chez certains fromagers qui n'arrivent plus à se faire livrer en feta. Donc, c'est un phénomène. Effectivement, ça vous arrive du jour au lendemain.
Ouais.
Donc, il faut être capable de réagir si ça vous tombe dessus, entre guillemets, quoi.
Ouais, c'est ce qui est intéressant, c'est que sur l'application des livraisons d'épicerie Instacart, en fait, les feta est devenu la recherche numéro 1 sur l'application. Et il y a même des acteurs de la grande distribution qui disent avoir vu la demande augmenter de 200%.
Ouais, quand ça vous arrive d'une semaine à l'autre, je pense que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive.
Et en fait, il faut rappeler juste qu'aux États-Unis, en fait, les feta n'est pas un nom protégé. Donc, la majorité du marché est composée par une version, on va dire, locale du feta à partir du lait de vache. Et avec la pénurie du feta, il y a des acteurs qui proposent du feta grec et qui ont profité de la situation pour dire « Mais nous, on a encore du feta grec, en fait. »
Nous, on fait de la feta, oui, c'est clair.
C'est un peu plus cher, mais bon, c'est très intéressant. Et on apprend aussi qu'aux États-Unis, bon, là, je pense que c'est les cas les plus important de l'impact des TikTok sur la vente d'un produit agroalimentaire. Mais en fait, ces derniers mois, il y a eu d'autres phénomènes comme un fromage américain Winnie Mare aussi qui a explosé les ventes grâce à TikTok, des tortillas mexicaines et même un jus de pomme de la marque Martinelli qui a explosé suite à des vidéos sur TikTok.
Oui, et du coup, moi, je pense que c'est...
Je pense qu'en France, ça va arriver aussi.
Alors, je sais pas si en France, ça peut arriver, mais en tout cas, moi, j'incite les acteurs à essayer. Hein, TikTok, moi, j'avais vu il y a quelques mois que c'était aussi les plateaux de fromage et de charcuterie qui avaient énormément de succès sur TikTok.
Mm-hmm.
Donc, si vous êtes fromager ou charcutier, peut-être tester de faire des petites vidéos. On ne sait jamais. Hein.
Et si nos auditeurs connaissent des exemples en France qui ont bien marché et qui ont un impact sur les ventes, on sera preneur pour pouvoir en parler ici sur It's Business. Bon, Olivier, on arrive à la fin de notre rubrique revue de presse et là, on va s'intéresser aux réseaux sociaux avec quelques perles. On commence d'abord avec les fondateurs de la plateforme de livraison des courses La Belle Vie qui se félicitent de ses bons résultats.
Oui, et c'est ce qu'il a mis sur Twitter, c'est qu'en 7 semaines en 2021, il a fait autant de chiffre d'affaires qu'en 2019.
Pienaise, donc
ça en
bravo,
dit beaucoup
hein,
sur la progression de La Belle Vie.
Paul, bravo, hein, ce sont des très bons chiffres, quoi.
Ouais, c'est super. C'est bien de voir qu'un acteur de ce calibre-là qui va se frotter un peu à la livraison d'épicerie ça marche. Ça veut dire qu'il y a un bon service derrière.
Qui se bat contre des géants comme Carrefour
et Amazon.
Monoprix et Amazon, tout à fait. Et dans cette édition spéciale agriculture, évidemment, on va place au ministre Julien Denormandie qui fait la promotion de la super initiative Frais et Local.
Oui, le ministre se la joue un peu VRP de luxe hein, avec le site frais-local.fr. Mais bon, on peut redire au ministre qu'il est le bienvenu quand il veut hein, pour en parler chez Business of Bouffe.
Évidemment.
Et en tout cas, il a fait quand même pas mal de pubs sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça bien qu'un ministre fasse la pub.
Bah, écoute, on va faire la pub aussi pour Frais Local parce que j'ai trouvé l'initiative tellement chouette. On va juste jouer un petit extrait de la pub qu'il a mis sur Twitter.
Tiens, qui veut des œufs pour le petit-déj?
Moi aussi.
Mais oui, des bons œufs frais. Ah, ça va être incroyable.
Si vous voulez consommer frais et local, il y a bien plus simple. Rendez-vous sur frais-et-local.fr et retrouvez vos produits agricoles en vente directe près de chez vous.
Ben voilà, bravo, c'est une super initiative de la part du gouvernement, on la salue. Et on va finir avec un sujet qui a fait polémique sur LinkedIn. Alors, les biscuits Saint-Michel vendus en vrac, mais avec un emballage en plastique individuel, Olivier.
Oui, alors c'est une polémique que j'ai trouvée sur LinkedIn. C'est Boris Le Goffic qui a posté une photo d'un rayon vrac Saint-Michel où c'est marqué « Je craque pour le vrac ». Et effectivement, quand on regarde dedans, on trouve plusieurs sachets individuels, en fait, mais posés dans des bacs vrac. Donc c'est... Je pense que le terme vrac était un petit peu...
Ouais,
le vrac, normalement, on est censé avoir moins d'emballage.
On est 100% d'accord. Après, Saint-Michel a publié dans la foulée un communiqué qui dit que les dispositifs en fait, présentés, c'était un test réalisé dans un des ateliers à Contres et qu'on avait raison. En fait, l'appellation vrac, elle est inopportune et prête à la confusion. Nous avons donc décidé de retirer cette appellation dès à présent. Bon, Saint-Michel qui indique aussi qu'il travaille activement sur la réduction des emballages et on salue toute initiative qui va dans ce sens-là.
Oui, et bon courage à l'équipe marketing hein, pour cette petite coquille parce qu'effectivement, je pense qu'il y a du boulot. Ça a quand même fait pas mal causer. Hein,
oui, non. Les posts LinkedIn, elle a été visualisée par des milliers de personnes. Hein. Ça a causé vraiment une énorme polémique là.
Voilà.
Bon, Olivier, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ces super épisodes et à la semaine prochaine avec un nouveau épisode des It's Business.
Salut Daniel, au revoir à tous.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
Bonne semaine et à bientôt !